RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show. Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, messieurs, dames, attention, va y avoir du débat et vous allez apprendre plein de choses dans l'heure qui vient, donc restez bien à l'écoute jusqu'au bout. Appelez le 32-16 si vous voulez débattre avec nous, envoyez-nous vos messages sur Direct Studio. On va parler des agents, Jérôme Bretagne bien sûr est là, Daniel Riolo est là, Bruno Sapin toujours, et on accueille Romain Molina. Romain, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation, j'aime.
Romain qui a écrit un bouquin justement sur le sujet qui s'appelle La Mano Negra, je le montre là, ces forces obscures qui contrôlent le football mondial, chez Hugo Doc. Donc voilà, c'est il y a des portraits des grands agents du moment du foot mondial. Et je vous pose d'entrée cette question. Après, on détaillera évidemment ce qui se passe. On racontera quelques anecdotes, quelques histoires. Mais la question est directe. Romain, est-ce qu'aujourd'hui, les Xavi, Mendes et compagnie sont les vrais patrons du foot mondial?
Je pense qu'ils, en tout cas, ils ont une bonne partie des responsabilités du sort actuel du football. Ensuite, moi, je différencie par exemple un mec comme Pini Xavi, qui va au-delà du football, on est même très au loin du football, avec aussi ses étudiants, comme il les appelle. Donc, par exemple, un agent albanais qui s'appelle Fali Ramadani, dont on pourra reparler.
Qui est très important en ce moment, il paraît qu'il...
Ah, Fali, il met tout le monde au garde à vous, on va dire ça comme ça.
quelqu'un qui a été condamné à de multiples reprises en Allemagne, et c'est un bon deal.
Et on pourra en reparler, mais tu sais qu'il a toujours été blanchi. Mais c'est incroyable, c'est avec il a certains liens très très troubles, on va dire. T'as Kiyajo Rapchian aussi. Alors là, on pourra en parler, écrire un roman. Moi, je pense que Mendes et Raiola, c'est des dealmakers, surtout. Mais qu'avant tout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce système-là a été créé. Le système-là, il a été créé par un mec qui, aujourd'hui, il est en fin de vie, s'appelle Juan Figuer, qui est un champion d'échecs devant l'éternel, alors que j'ai la voix cassée, je m'en excuse. Et en fait, si aujourd'hui on a ce système-là, c'est parce qu'il y a un mec d'Uruguay, un champion d'échecs, qui a tout créé aussi.
Champion d'échecs parce qu'il était vraiment, hein.
Ouais, il était vraiment, ouais. Il était champion d'échecs.
Mais tu sais que Bruno le connaît, parce que en arrivant, je lui ai dit, est-ce qu'il le connaît? Il me dit oui, c'est un peu. Et d'ailleurs, ton livre qui est un peu une galerie de personnages, c'est un peu présenté comme un film, on va dire, avec tu fais une présentation à chaque fois comme si le mec était, comme si les gars étaient des héros, quoi, et enfin des héros d'un film, je veux dire, d'un film. Et enfin des personnages plus que des héros d'un film. Et effectivement, après ta première rencontre avec
Paolo, tu passes de Wall Street à Scarface à un certain moment.
C'est ça. Ton livre commence à Lyon, on a l'impression que t'es un peu initié par Paolo Teixeira qui te donne deux trois billes pour commencer un peu ton enquête. Puis après, tu files dans le grand voyage. Ouais. Et le grand voyage, il commence avec ce personnage. Franchement, je ne connaissais pas. Tu vois, Bruno a l'air de dire, quand je lui ai demandé, tu connais, mais comment tu peux ne pas connaître et tout. Mais c'est on va dire, le père de tous les agents, Bruno. Toi, tu le voyais comme ça, toi, quand t'as commencé?
C'est-à-dire que lui, cette.
Donc il est uruguayen, cet homme-là.
Voilà, il est uruguayen, mais il s'est installé, il y a 50 ans au Brésil, à São Paulo. Et donc c'est lui qui a vraiment inventé cette manière de faire du business. C'est le premier qui a, aidé certains clubs, au niveau financier. Et en contrepartie, il récupérait des parts de revente du joueur. Donc lui, il a inventé tout ce que refont ou essaye de faire encore ceux d'aujourd'hui, quoi.
L'organisation des matchs amicaux aussi.
Ça, il faisait aussi.
En fait, il était organisateur de spectacles. Tu peux citer quelques joueurs un peu, parce que quand on parle de noms comme ça, c'est toujours bien de savoir s'il a fait des.
Maradona, Socrates. Klinsmann.
Bah attends, Maradona, on m'a toujours dit que c'était le célèbre Sitter Spieler.
C'était son ami, sauf qu'en fait, il a partagé avec Sitter Spieler, amené notamment à Naples pour l'exploitation des droits d'image. Ensuite, Maradona, il est allé avec Guillermo Coppola. Il y a un livre qui est sorti sur Coppola, alias Un meurtre imparfait. Lui aussi, on pourra en parler très longtemps. Mais Figuer, plus de 1000 transferts. C'est lui qui a inventé la TPO, donc l'achat d'un tiers pour les droits économiques d'un joueur. C'est lui qui a inventé la triangulation. Et à l'époque, c'est incroyable parce qu'il avait, il était actionnaire de l'Inter Milan. Il s'occupait des matchs amicaux, du Barça, des plus grands clubs. Il gérait les télés. Il gérait les droits d'image, notamment aussi de Michel Platini. Mais le mec faisait tout. Il avait un empire incroyable.
C'est un petit bonhomme.
Il faisait 1m65 à peu près. Souvent, bon, il y a la légende. Et bon, aujourd'hui, Juan, il doit avoir 77, 78 ans, je pense.
Il a deux dates de naissance. Une fois, il a rempli des papiers en 1930 et une fois en 1934.
Mais il est célèbre parce que des fois, bon, pendant les négociations avec l'âge et tout, des fois, il s'endormait. Et puis, à un moment, il se réveille, il dit non, ça sera 1 million en plus. Il est connu parce qu'il avait, bon, Real Madrid, il faisait tout, tous les étrangers, les Sud-Américains. C'était lui, le Bayern Munich, c'était lui.
Il paraît qu'il n'y avait pas un truc qui se faisait en Amérique du Sud sans qu'il soit au courant.
Ah mais c'est un truc de fou. Brésil, c'était vraiment chez lui.
Il avait son fameux club pivot, c'était Rentistas, que tout le monde, nous, on connaît dans
les
le
centrales espagnoles aussi. Ouais, on avait deux.
Pourquoi club pivot, ça veut dire quoi?
Eh ben, c'est là où il enregistrait les droits des joueurs qui lui appartenaient. Il avait son propre. En fait, mais il était très en avance.
Non, mais attendez, parce que là, vous êtes en train de me faire un portrait comme si le mec était un génie absolu. Bon, enfin, excusez-moi, il y a quand même problème, là.
Ah non, mais c'est réellement, dans ce qu'il faisait, c'était un génie.
Mais bien sûr. Oui, mais il y a un conflit d'intérêts dans tous les sens, de partout. Là, on le décrit comme si le type était le mec génial qui avait tout inventé.
Non, mais c'est parce que c'est le premier.
Tu peux pas à la fois vendre les droits télé, puis en même temps placer les joueurs dans les clubs, et en même temps.
Et il est pas le seul. Alors, parce qu'il y en a plein dans la galerie de Romain.
Mais c'est bien le problème, Bruno, non?
Ben non, mais bon, il était à une époque où justement il y avait des vides dans tous les sens et lui il les a remplis. Hein.
Oui, tu veux dire, le secteur n'était pas réglementé comme aujourd'hui, quoi.
C'était pas du tout réglementé. Non. Et puis en fait, les gens avaient besoin de lui, c'est-à-dire qu'il était dans un certain nombre de temps incontournable, mais véritablement incontournable. Donc, c'est lui, il y a encore très peu d'années. Il avait fait un pré-contrat de Neymar avec le Real Madrid. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un an avant, il ne devait pas aller au Barça, il devait aller au Madrid.
Moi, je me souviens de Bruno, il y a 10 ans, qui vient dans l'after et qui lui dit, je vous préviens, il y a deux gars qui vont arriver, c'est Neymar et Ganso, ils sont à Santos, ça va être la bombe. Ils avaient quoi? Ils avaient...
Ouais, 17 ans, ouais.
17 ans. Ouais. Et lui, il est du Neymar. Je me rappelle. Ah, moi, j'ai dit, mais Bruno, arrête, t'as une Neymar et Ganso, tu nous fatigues. À chaque fois, j'ai dit ça.
Et dans les liens de... c'est Figuer qu'on dit?
Juan Figuer.
Attends, le livre n'est pas que sur lui. Hein. Oui, moi, c'est le chapitre qui m'a le plus fasciné parce que t'as vraiment l'impression que c'est le mec. Mais tu parles de plein d'autres et notamment ta fameuse discussion avec
Nizar. Il a dit Gantin.
Mais il y a un lien qu'on a pas mentionné, c'est que le mec était également très lié avec Ricardo Teixeira, président de la fédération brésilienne, qui lui aussi en matière de.
Eh ben, parce qu'en fait, Figuer, il a eu des affaires notamment de faux passeports. Et en fait, il passait par un Serbe qui habite à Marbella. Et ensuite, derrière, là, il était pas responsable, mais en fait, il y avait également énormément de faux passeports qui remontaient à du trafic de mineurs, etc. Bon, lui, il a jamais rien eu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une audience au Brésil, et en fait, il veut accéder à ses téléphones, etc. Et lui, il dit non, c'est un dialogue de sourds, et il a jamais rien eu. Parce qu'en même temps, il avait Avalanche, et au Brésil, ce qui est fort, c'est qu'il était l'adjoint de Luxemburgo, qui était sélectionneur.
Qu'il avait
placé au Real. Qui organisait les matchs amicaux.
Oui.
Et donc, Luxemburgo prenait les mecs que lui voulait. Il avait une ou deux sélections, ils étaient bidons, et comme ça, ils gagnaient en valeur pour les envoyer en Europe.
C'est un pur scandale,
Non, mais ça, on en avait parlé à l'époque de Vanderlei Luxemburgo, qui faisait jouer, on la connaissait, il faisait jouer des mecs en sélection brésilienne pour leur faire avoir une ou deux sélections, des mecs qui étaient pipes, et ça permettait de les vendre après.
Non, mais Bruno, j'attends parce que vous avez fait
Non, rappelez-vous de Barbosa, quand il avait
pignon
sur
rue. On en parle aussi dans le bouquin, Manuel Barbosa.
Il s'arrangeait aussi à l'époque pour faire sélectionner quelques joueurs, et puis leur donner des sélections dans les match entre guillemets de deuxième niveau quoi du Brésil, ce qui permettait de les estampiller internationaux brésiliens.
Comment on
attends, juste en tout cas, Jérôme là, t'hallucines quand t'entends tout ça ou tu te dis
je savais de toute façon on est au courant dans ce milieu. Là on parle de lui, on peut parler d'autres. Ce que je veux dire, tu sais que au bout d'un moment quand t'es joueur de foot, même quand tu arrives au très haut niveau, que tu veux aller aller dans un pays ou dans un grand club,
faut que tu changes d'agent.
Pas forcément, mais il faut que ton agent
deal avec un autre mec.
Ah bah oui, ça c'est une obligation.
Mais ça tu l'as déjà constaté pour toi ou pour des mecs à côté de toi qui à un moment je dois changer d'agent, sinon le deal ne s'offrira pas et ma carrière ne pourra pas évoluer.
Pour moi déjà. Alors moi j'ai pas changé, mais je sais que ça se passait comme ça et que si j'avais voulu aller dans certains clubs, il fallait que je change.
C'est ce qui s'est passé avec nous. Jérôme nous a dégagé pour aller avec Janover pour aller à Monaco.
Non. Mais non, mais
Bruno, c'est la réalité.
Bruno, on va pas remettre ça sur le.
Parce que
on peut passer une heure d'émission.
Tu le sais. Non, mais on en parle. Voilà. Non, mais je dis ça avec humour aujourd'hui parce que bon, c'est il y a longtemps.
Ouais.
Ah, parce que moi je savais pas, Jérôme, il était avec vous.
Avec notre groupe.
Ah, parce que Janover était.
Non, Janover était à l'époque.
Jérôme était avec un agent qui bossait avec Bruno.
Ouais. Son associé.
En fait, Janover, il avait 16 ans. À Monaco.
Il était proche.
Sauf que moi, qui notamment aussi pendant longtemps.
Sauf que
Didier Deschamps.
Ah oui, c'est vrai.
Attends, Jérôme, vas-y. Mais je vous arrête tout de suite, c'est que moi, Jeanne Overt, jamais j'ai eu de rapport avec lui.
Oui, c'est possible.
C'est pas cet agent-là, c'est pas Jeanne Overt qui m'a emmené à Monaco. C'est l'agent que j'avais, donc j'avais changé par rapport à IMG, c'était Christophe Orlaville, qui est resté mon agent tout au long de ma carrière, dans tous les cas. Et c'est Christophe, donc, qui m'a emmené à Monaco. Après, qu'il ait dealé avec Jeannot ou avec d'autres, certainement que ça s'est passé comme ça. Et à l'époque, en effet, à Monaco, Jeannot Vert, il faisait la pluie et le beau temps. Ça, tout passait par lui.
Des agents qui sont, Romain, il y a des agents qui sont installés dans des clubs. Et parfois, il y a un truc que tu racontes, et ça, à un moment, ça m'est revenu, c'est l'histoire de filière. Pourquoi? Alors, le plus marquant, c'est à l'époque où, au Bayern Leverkusen, c'est extraordinaire. C'est vrai, à un moment, il y a une filière, ouais, les meilleurs Brésiliens transitent par le Bayern Leverkusen.
Oui, mais
Lucio, Zero Verdo.
C'est Figuer, et c'est Calmoun de l'autre côté. Donc, mais ça a été des succès énormes.
Mais ouais, ils étaient tous les Brésiliens qui atterrissaient.
Le mec, en plus, il prêtait de l'argent à Leverkusen, notamment son directeur général. Donc, en plus d'être agent de save, il faisait banquier, le mec.
Je pensais qu'ils étaient tous honnêtes, c'est toujours le cas dans les clubs. Non, Romain? Merde, alors.
Je sais pas, Bayern Munich.
Alors, attends. Maintenant, parlons de la situation actuelle. Quand Mendes possède des clubs, puisqu'il possède des clubs,
il a de l'influence. Mais c'est vrai qu'à Wolverhampton, je crois qu'il fait partie aussi de l'actionnariat, si je dis pas de bêtises.
Enfin, quand je dis,
c'est sous son contrôle, comme Raiola le peut Exwall, comme l'ancien agent de Shevchenko à le Spartak Jumala en Lettonie. Tout est possible.
Bon, quand un agent possède, alors il y a peut-être des montages financiers qui font que légalement c'est pas lui le propriétaire, mais enfin qu'en tous les cas c'est lui qui décide de tout dans le club. Comment il est possible que les instances ne se penchent pas là-dessus, instances nationales, internationales, pour couper court? Enfin, le conflit d'intérêt, il est évident.
Alors, après, il y a cet exemple-là, mais le plus grand exemple des dernières années, c'est un Moucron en Belgique et l'Apollon Limassol à Chypre. Et là, c'est le cirque Pender. Là, c'est Pini Zahavi qui contrôle en sous-marin avec Fally Ramadani. Ils ont carrément acheté Moucron à leur nom à travers des sociétés maltaises. Et quand ça sentit un peu mauvais, ils ont revendu ça pour 10 euros au neveu de Zahavi à travers des sociétés maltaises.
10 euros, t'es sérieux là?
Ouais. Et ensuite, ils ont
vraiment
revendu
10 euros.
Ça. Ouais. Ils ont revendu le club 10 euros. Et ensuite, ils ont revendu ça à Peroj Piemponksant, un businessman thaïlandais qui est un ami de Pini depuis 15 ans. En disant non, on n'est plus dans le club. Et chaque année, à Moucron, t'as 30 arrivées, 30 départs. C'est, honnêtement, c'est un sketch. Et Radonjic, à un moment donné, il passe à Moucron. Il n'a pas signé, mais...
Qui ça?
Radonjic.
De
l'OM. Et en fait, il y a des joueurs...
Radonjic, c'est pour ça.
Ils n'ont jamais mis pied à Chypre. C'est pas la signature sur leur contrat, mais leurs droits économiques appartiennent à Chypre. Parce que depuis que la TPO, donc, qu'un tiers puisse détenir des droits économiques des joueurs, ça a été annulé. Donc, c'est prohibé. Maintenant, les agents, ils vont directement influencer sur des clubs. Et tu prends, par exemple, Eintracht Francfort. Bah, c'est la maison, hein. Et d'autres clubs, comme ça. Mais de l'Apollon Limassol et Moucron, honnêtement, c'est...
Comment ça, Francfort, c'est la maison? C'est là, tu vas vite.
Pini, il est à la maison à Francfort.
Ah, attends,
comme à la Fiorentina, Fally, il est à la maison.
Tu parles de Pini, là, comme si c'était ton ami intime. Donc là, on parle de Pini Zahavi, qui est un autre personnage incontournable aujourd'hui du monde du foot.
Bah, Pini Zahavi, alors, c'est
qui a permis la venue de Neymar à Paris.
En France, on a l'impression qu'on a découvert le personnage parce qu'il est apparu sur les images partout au moment du transfert de Neymar. Mais il est pas nouveau. Tu racontes son histoire, elle est extraordinaire. Journaliste israélien qui est le premier à faire venir, qui son premier deal c'est avec Liverpool.
Et tu sais que son traducteur à
Rosenthal,
c'est Reuven Rivlin, qu'aujourd'hui le président d'Israël. C'est son traducteur à l'époque.
Ah non, je savais pas.
Mais après, la vraie histoire.
Il a le bras extrêmement. Moi, je me souviens à l'époque où on avait Olivier Dacour à Leeds. Il avait fait le gros transfert de Rio Ferdinand, qui venait de West Ham et qui était le plus gros transfert du football anglais à l'époque. C'était 30 millions de livres, c'était énorme à l'époque.
Le traducteur de Pili Zahavi est maintenant président d'Israël. Est-ce que vous pensez que le traducteur de Bielsa à Marseille deviendra un jour président de la République?
Vraie question.
Non mais alors Romain, franchement le livre est passionnant, mais je passais les pages comme ça, je me disais mais... Il y a quoi, pour suivre le foot aujourd'hui, soit faut être absolument cynique, parce que qu'est-ce que tu vas pas te dire, parce que là on a passé une semaine avec des révélations en tous les sens de Football X, où on a l'impression qu'on a découvert Christophe Colomb découvre l'Amérique, il y a des accords entre l'UEFA et les clubs, pendant des années, si on dit que pendant des années t'as des clubs qui ont usé de mille turpitudes et que tomber sur le PSG aujourd'hui c'est injuste, bah forcément c'est qu'on est un supporter du PSG si on dit ça. Et qu'on est contre les lois rétroactives qui pourraient frapper le PSG et qui n'ont pas frappé tous les autres clubs européens avant. Mais face au monde que toi tu décris là, comment toi t'as pris déjà ces révélations-là et comment peut-on voir le foot comme quelque chose avec un tantinet, quelque chose de propre quelque part? C'est un monde qui a l'air corrompu de partout.
Étant utopiste, je crois encore un peu à la bonté humaine. Après, il y a business et business. Type Juan Figuer, c'est une gentille canaille, c'est un gangster moderne, comme dirait MC Solar. Par contre, il y a le business type Kia Jorab Chian. Là, ça s'appelle le Brazilian Football Project dans le livre, et les mecs sont quasiment tous morts quand même. Hein. Et là, on va dans la très haute criminalité avec des liens, notamment avec un des banquiers informels des réseaux Ben Laden en Tchétchénie. Dans le foot, là, ça fait peur. Honnêtement, ça, je pense que c'est assez flippant. C'est pour ça que le livre, c'est aussi un peu d'histoire géopolitique et autres. Vis-à-vis des révélations dont tu parles, moi, je respecte plein de choses, mais pour moi, si on analyse uniquement le foot sur le prisme de l'argent, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que l'industrie footballistique, Ok, c'est important, mais comparé au pétrole et tout ça, c'est que dalle en termes de revenus. Par contre, son exposition médiatique à l'international, elle est inversement proportionnelle. Et pourquoi autant de milliardaires, des États vont investir dans le foot? Est-ce que c'est vraiment pour l'argent ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et les gens qui ne font pas la différence entre ça et ça, c'est ceux qui pensent qu'il faut juste de l'argent pour gouverner le monde. Avant tout, c'est le pouvoir.
Alors attendez, moi j'aimerais quand même que Bruno, tu nous donnes ton avis quand t'entends tout ça là, parce que toi tu es dans cette profession aussi, tu bosses tout à fait honnêtement au quotidien là.
Moi je te dis, je suis un artisan.
T'as pas de relais avec les contacts de Ben Laden en Tchétchénie.
Mais comme ça fait longtemps, et puis je parle un peu les langues, j'ai forcément côtoyé ces gens-là, enfin ou la majorité, où je les ai rencontrés, donc Pini, Georges, Mino Raiola, bon il y aura plus chance, j'ai toujours évité des raisons personnelles, mais bon. Après, parce que effectivement, quand on a vu l'irruption de gens comme Groupe Doyen, bon, bah, c'était clairement du nettoyage d'argent sale. Enfin, faut être clair.
Oui, qui a un fonds qui rachetait des clubs ou des joueurs.
Bon. Ouais, ou qui vous prêtait 5 millions pour acheter un joueur et puis le placer ailleurs et puis essayer de faire une culbute. Donc ça, c'était devenu. Après, ce qui est facile, pourquoi ça vient d'Amérique du Sud tout ça? Parce qu'en Amérique du Sud, tous ces phénomènes-là d'être propriétaire de clubs. C'est possible d'avoir des clubs, même des clubs amateurs, on peut enregistrer des droits. En France, enfin en Europe, c'est que des clubs professionnels où on peut enregistrer des droits et générer des transferts. En Amérique du Sud, un club de 4e division, de 5e division, vous enregistrez des droits, donc vous pouvez encaisser vos profits et puis dissimuler l'argent, quoi. Donc tous ces phénomènes-là, ils viennent majoritairement d'Amérique du Sud. Bon, je sais pas s'il est dans le bouquin, mais bon, Paco Casals, c'était un des plus grands phénomènes. Bon, par rapport à ça, et tous les Sud-Américains, c'est eux qui ont inventé le métier, et en particulier les Uruguayens. Donc
pourquoi les Uruguayens aussi. C'est Sir Spiller aussi qui était le premier agent de Maradona. C'est
Francescoli a bossé avec Casals d'ailleurs. Je crois
c'était l'agent. Ben maintenant il est dans les droits télé et une grosse compagnie. Voilà, Tenfield. Bon, ça contrôle beaucoup de droits télé en Amérique du Sud et même aux États-Unis. Donc il est beaucoup plus là-dedans que dans les transactions de joueurs. Maintenant c'est pour le fun.
Mais c'est ça le vrai business, c'est la périphérie, le business périphérique autour du football. Un mec comme Zahavi, il représente pas les joueurs. Il représente 5 joueurs. Par exemple Moussa Dembélé à Lyon, c'est lui qui finit le dossier. C'est pas l'agent du joueur.
Mais en fait, attends, Zahavi, il a jamais vu Moussa Dembélé. Limite, il sait même pas qui c'est.
Ah si, il connaît très bien le foot. Contrairement, il y a des agents qui sont pas passionnés de foot, mais lui, il connaît. Ah, lui, il connaît. Puis à la base, c'est un vrai passionné de foot. Et même, tu disais tout à l'heure sur Zahavi, moi, je trouve qu'il est intéressant dans le personnage, c'est que pendant la guerre froide, donc c'est le premier Israélien non communiste à obtenir un visa pour l'URSS, c'est Lobanovsky qui lui a donné, ancien entraîneur du Dynamo Kiev. Et donc, il y avait rupture des relations diplomatiques entre
les deux. Les noms qui tombent dans le truc, ça part de tous les côtés.
En 89, et cette anecdote, je la trouve dingue, il me l'a confirmé. Il y a le Dynamo Kiev qui vient en Israël. Ça va marquer la fin du boycott entre les deux pays. Et l'architecte de ça, c'est Zahavi. Donc, le mec, il a géré quand même la fin du boycott avec les forces politiques du RSS et d'Israël. Donc après, gérer des transferts, j'ai envie de dire.
Non, mais à un moment, bon, enfin, moi, je me posais même la question. Je me dis, bon, Pini, ça, c'est un peu la couverture, mais c'est un agent du Mossad, quoi.
Tu vois, je vais te donner une anecdote, mais cet été, il était avec le président de Chypre, de la République. Et il avait amené les enfants, il avait amené la marmaille. Hein. Je veux dire, quand tu rencontres un président de la République avec tes enfants, c'est que le mec, c'est ton copain.
Ouais, c'est que t'es à l'aise. Ouais.
Mais et pourquoi? Et donc là, je suis en train d'essayer de savoir. Je sais qu'il voulait la super licence du casino qui était construit à Limassol, il y a d'autres choses.
Mais vous allez commencer à être en bon rapport avec Pini Zahavi parce que tu reproduis l'entretien que tu as eu avec lui au téléphone ou via WhatsApp?
WhatsApp. J'ai que parlé par WhatsApp avec lui.
WhatsApp, mais il t'a répondu, mais vous avez parlé longuement parce que tu as tout reproduit in extenso.
Intégralité, mais ouais. On va dire quand je commence
à un moment, il voit que tu es quand même bien informé, il se dit tiens, je vais quand même lui répondre au petit
quand
là.
Je lui parle des mines d'or au Libéria, là, il a pas tellement apprécié, mais.
En général, il a une particularité, il répond au mec qui craint.
C'est un beau compliment.
Donc les courtisans, ils les envoient bouler quoi.
Ils s'en foutent.
Ils s'en foutent.
Ouais, c'est pas. Ouais.
Ah, parce qu'on a parlé longtemps, mais c'était surréaliste parce qu'au début il m'a fait transpirer, je le vois écrire un message et je lui ai mis un truc quand même un peu touchy. Et puis on a parlé jusqu'à 1h30 du mat pendant 2 soirs de suite. Mais c'est marrant parce qu'il écrit comme un gamin. Il écrit Tomorrow avec un 2. Et puis il te dit My Friend. Il me fait penser, tu vois, dans le livre de la jungle, le serpent. 5 minutes après, il t'a embobiné si tu le connais pas. Et il est toujours dans le charme. Et en fait, c'est là où il est très fort, c'est que au lieu d'être, on va dire, certains sont agressifs. Lui est toujours dans la diplomatie et le charme. Et pourquoi? Ça s'explique par son passé au niveau diplomatique avec Israël. Et ça, il est très différent d'un Kia Jorapian, par exemple, qui est son élève, comme il le dit. Et lui-même dit, George Mendes, c'est mon élève. Hein. Alors, sans pression, et c'est la vérité, en plus.
Dis-moi,
Mendes, Lufia, Zahavi.
Jérôme, aujourd'hui, on pourrait faire une carrière sans agent? Je reviens au niveau français, là, parce que là... Bon,
Tu vas nulle part, je pense.
Ça dépend ce que tu veux faire, c'est toujours pareil. Mais bon, après, un agent, ça te sert sur plein de choses. Là, on va loin.
Donc, oui, voilà, on est dans des sphères.
Bien sûr. Et puis là, on parle d'une minorité de joueurs hein, quand même. Hein, tu vois, ça représente pas la globalité des joueurs. T'as des joueurs qui ont forcément besoin de conseils et à tous les niveaux. Et puis même au niveau, négocier un contrat, négocier un salaire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des joueurs, ils peuvent pas, ils y arrivent pas, ils arrivent pas.
Parce qu'on entend, moi, je me rappelle de Manu Petit qui dit, ouais, moi, je négociais tout seul, Thuram le dit aussi.
C'est vrai, mais.
Coupé le disait aussi.
Alors, oui, mais tous leurs grands transferts, ils ont été faits par un agent. Ça, je sais que bon, Lilian, il aimait bien le dire, mais il y a quand même quelqu'un qui va s'occuper de la transaction. Et c'est pas Lilian Thuram qui a rendu le prix du transfert entre Parme et la Juve ou entre la Juve et le Barça. Donc, il y a toujours, et c'est pour ça qu'il faut distinguer ce qu'on va appeler l'agent du joueur qui est juste là, qui fait les conditions, qui négocie le contrat de son joueur pour savoir si c'est net d'impôts ou s'il y a les impôts, par exemple, et l'agent qui va effectivement négocier une transaction pour essayer de trouver un accord entre le club au moment où il y en a un qui veut acheter l'autre.
Moi, je vais te dire, moi, le joueur, et il y en a plein hein, qui sont comme moi, encore aujourd'hui, je voulais assister à toutes les discussions. Alors, pas les discussions du début, bien sûr, mais quand tu commences à parler des contrats et des, je voulais assister.
Parce qu'il y en a qui y vont pas, qui s'en foutent.
Ah ben oui,
il y en a plein.
Ben la majorité, hein, Bruno, il va te le confirmer. Ce que je veux dire, moi, je voulais assister parce que je voulais voir ce que moi j'allais gagner, ce que l'agent allait gagner. Voilà, il fallait que ça soit
transparent.
Ben ouais, il y a pas de comme ça, t'as pas de mauvaise surprise. La seule fois où j'ai pas fait ça, j'ai eu une je te dis pas comment j'étais dans c'est quand je suis allé en Turquie ou quand je suis allé en Turquie
où ça s'est mal passé.
Mais non, ça s'est pas mal passé parce que à l'arrivée j'ai eu ce que je voulais. Mais quand je vois tous les agents qui sont passés par là, moi je suis allé avec un agent, il y en a deux autres là-bas en Turquie qui sont passés. Quand je vois la commission d'ensemble de ce qu'ils ont pris par rapport à ce que moi j'ai reçu, ils ont travaillé à, j'avais fait le calcul à presque 40%. Donc quand t'apprends ça et que toi tu te lèves le matin pour transpirer. Hein, et que tu vivre en Turquie, c'est pas comme vivre ici en France. Hein, donc il faut faire des concessions aussi. Et les matchs le week-end, c'est la même chose. Et les déplacements et ceci cela. Et que quand tu vois que l'agent il est tranquille en France, voilà, il t'appelle de temps en temps. Ouais, ça va, tout va bien. Et que toi t'apprends ça au bout de deux mois. Je veux dire qu'il avait du mal à m'appeler après.
Dis-moi Romain, la préface de ton bouquin elle est écrite par Denis Robert.
Tu me permets de faire une pause, Daniel? Tu regardes jamais le chrono, c'est important. Regarde, toi, il y a un petit chrono là-haut, ça fait juste 15 ans.
J'ai torticolis, toi, il est face à toi. Si je dois le regarder, je me casse le cou.
Petite pause. Ensuite, ta question, et puis on a Aurélien au 32-16 qui veut intervenir dans notre débat. Appelez-nous, n'hésitez pas, pour continuer le débat sur les agents ce soir dans l'After. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
C'est l'after jusqu'à minuit, bien sûr. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Bruno Satin avec nous, l'agent de tous les agents, en France en tout cas. Je réduis ta zone d'action.
Non, mais tu fais la région parisienne.
Jean-Michel Aulas sort de ce corps. Et Romain Molina.
C'est mieux de la région parisienne à l'arrivée. Ouais. Vaut mieux être l'agent de la région parisienne un peu plus nombreux. Avec le vivier qu'il y a.
Et Romain Molina, donc le bouquin La Mano Negra que je remontre chez Hugo Doc. Alors.
Oui, j'en étais à ma question.
Non. On va d'abord accueillir Aurélien. Si tu veux.
Aurélien,
ta question viendra ensuite. Aurélien, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais passé il y a deux ans sur l'explication de la Marseillaise, le professeur d'histoire géo.
Ah, bien sûr.
J'étais aux 10 ans de l'after. Vous m'aviez reçu. C'était génial. Tout d'abord, avant de poser ma question à Romain, je voulais le remercier. Il est passé il y a deux jours donner une conférence dans le lycée où je travaille à mes élèves pour justement présenter le rapport entre la mondialisation du football et les réseaux mafieux. Et je tenais à dire devant tout le monde qu'il l'avait fait en plus gratuitement. Et il était resté en plus très à l'écoute des élèves et des questions, même au-delà du temps imparti. Et je tenais encore une fois à le remercier pour son intervention. Voilà. Moi, je voulais simplement poser une question que j'ai pas eu le temps de lui poser mardi, du coup. Au final, moi, je vois une différence entre des gens comme Boris Berezovsky, dont il parle dans son livre, et Pina
Zahavi. Oui, Berezovsky, qui est un oligarque russe, hein.
Voilà, on a d'un côté des gens dont on voit clairement que c'est du blanchiment d'argent, comme Berezovsky, alors que Pina Zahavi, tout de suite, on bascule sur quelque chose de très géopolitique. Je voulais savoir dans quelle mesure, finalement, est-ce que Romain pense que les joueurs, évidemment le gratin des joueurs, sont conscients, en fait, de combien ils sont eux-mêmes des objets de ce système, qu'ils sont utilisés par ce système de supra-agents, et aussi combien ils peuvent être parfois des acteurs de la géopolitique. Est-ce que Neymar et Mbappé sont conscients qu'ils sont des acteurs de la géopolitique au moment où le Qatar les recrute en réaction à la pression que met l'Arabie Saoudite à cette époque-là sur le Qatar suite aux accusations du financement du djihadisme, etc.
Bon, alors Romain, première chose, c'était très sympa la conférence. Deuxième chose, je pense pas que les joueurs ont vraiment conscience de ce qui se passe. Et le meilleur exemple, c'est Carlos Tevez. Carlos Tevez, il est passé de main en main, mais il est toujours fidèle à son représentant, qui est Kia Jorabchian, alias le playboy de Téhéran, également l'homme qui a 4 identités différentes. Hein, moi, si j'avais ça, je terminerais en prison. Hein, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, Kia, il travaillait, c'était le poster boy, l'homme de paille, parce que j'ai les papiers pour le montrer, de Boris Berezovsky, alias le parrain du mal, le docteur du mal. Il signe ses messages, le docteur du mal, qui était notamment un des financiers de Ben Laden en Tchétchénie, qui disposait du club de Corinthians en sous-marin. Quand ils ont acheté Nilmar à Lyon, ça veut dire que Lyon, ils ont récupéré cet argent-là, avec également celui de l'homme le plus riche de Géorgie, Badri Patakatichvili, alias le Robin des Bois géorgien, l'homme qui vole aux Russes pour donner aux Géorgiens. Mais il prend un peu, quand même.
Et dans en le fait, deal, à l'époque, il y avait Mascherano aussi.
En fait, Mascherano et Tevez, ils partent en TPO en Angleterre, c'est ouais. Ce qui fait le premier scandale. Ouais. Mais en fait, tout est scandaleux. Parce qu'ils se foutaient de la gueule du monde. Ils ont nommé les compagnies qui détenaient Mascherano Mister Service. T'as en plus, excusez-moi l'expression, d'enfiler le monde. C'était une grande manipulation. Et moi, j'ai un audio de Kia Jorabchian quand même, qui dit, on doit terminer de blanchir l'argent. Il le dit au mec de Corinthians. Et l'autre, il lui dit, comment tu me vends lui. Et Tevez, au final, il a basculé de main en main. Jorabchian, il a appelé deux chevaux de course, Carlitos et Lapache. Et le mec, il l'a baladé de club en club et c'est son ami. Alors qu'au final, les mecs qui étaient derrière, c'était... Là, on est dans la très, très, très haute...
Oui, après, les gens, il faut aussi qu'ils soient armés intellectuellement pour tout maîtriser tout ça.
Voilà, il y en a qui s'en foutent. Hein.
Quand tu sors de Fort Apache, t'as pas été beaucoup à l'école.
Moi, il y a un truc quand même, Bruno, qui m'interpelle. Parce que là, on parle de haute finance, de géopolitique et tout. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ces mecs-là... ils sont pas passionnés par le foot. Toi, quand on discute avec toi, tu connais tous les joueurs, tu vois 1000 matchs par semaine, t'es un passionné de football. Mm-hmm. Et ces types-là, en fait, fondamentalement, le foot, ils s'en foutent. Non? Enfin, je...
Pas tous, parce que bon, je pense qu'à un certain moment, t'es quand même obligé de t'intéresser au, à défaut de te passionner, un minimum. Donc, parce que sinon, tu peux pas être dans ce milieu-là en permanence. Mais peut-être que ça serait des gars qui pourraient très bien dans la banque, dans le marketing ou dans d'autres.
Ouais, ou être courtier dans le milieu de l'or ou
dans le pétrole.
Dans le pétrole.
Pas forcément en parlant de brouilleurs à pion, ceux qui sont véritablement dans le grand banditisme, mais bon, pour bien connaître des George Mendes ou des Raiola, bon, déjà, c'est des mecs qui ont une puissance de travail hors norme. Ouais. C'est des phénomènes. Moi, je voudrais pas avoir leur vie, très sincèrement, parce qu'ils ont pas de vie à côté. Alors, ils gagnent des saladiers d'argent, mais à ne plus savoir qu'en faire. Mais à côté de ça, ils profitent pas de grand chose, quoi. Parce que ils sont tous les jours dans l'action, ils sont à gauche, à droite, on les réclame partout. Alors peut-être que c'est leur énergie, hein, mais...
Bah, oui, Aurélien ?
Oui, excusez-moi. Mais le père Neymar, au moment où il voit Pini Zahavi arriver, vu les actualités politiques, etc., à aucun moment il fait le lien dans sa tête sur le fait que son fils va être l'objet d'un transfert qui est plus qu'un transfert. Et à aucun moment il en profite.
Je pense qu'il pense à l'oseille qui va tomber. Hein,
il y a bien la question enregistreuse, le père Neymar.
Ah ouais, le père Neymar, quand ça tombe, il est content. Peu importe.
Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Mais l'arrivée de Neymar, alors il le voulait évidemment au niveau sportif, également pour le développement à l'international de la marque du Paris Saint-Germain. Mais c'était un magnifique couvre-feu médiatique. C'est passé du Qatar finance le terrorisme à Neymar arrive. Je veux dire, c'était une priorité de l'émir qui a dit on mettra ce qu'il faut. Parce qu'il faut pas croire qu'il y a uniquement l'accord qu'on entend, même si Football X peut parler, il y a deux contrats.
Juste, tout ce que raconte Romain là, Bruno, tu t'adhères à tout ce qu'il raconte ou il y a des trucs qui te disent attends là.
J'ai pas lu le bouquin donc je peux pas prendre le jugement.
Dans ce que tu sais toi du milieu quoi.
Effectivement, bon, il y a toute une là quand on parle de géopolitique, forcément que on a compris déjà depuis un moment que le football il a une dimension géopolitique et que a fortiori quand un État est propriétaire d'un club comme le PSG, les choses qu'ils peuvent faire ne sont pas innocentes. Et effectivement, c'est fait pour, d'une façon ou d'une autre, bénéficier en termes d'image au Qatar. Donc, il y a cette dimension-là.
Ils veulent pas revivre ce qui s'est passé pour le Koweït. Le Koweït, ils se sont fait écraser parce que internationalement, ils pesaient pas. Aujourd'hui, qui va attaquer le Qatar? C'est plus compliqué. C'est le la meilleure
stratégie
pour ça qu'ils se placent partout. Le Qatar, l'aéroport du Qatar finance le Bayern Munich. Qatar a été sponsor d'un tas de clubs. Justement, ils se placent partout pour que leur image se propage. Mais géopolitique et football, tu te souviens de ce documentaire absolument magnifique qu'on adore tous les deux. Pelé, quand il vient aux États-Unis, au Cosmos à l'époque, c'est suite à un coup de fil de le transfert pour le débloquer, c'est Kissinger qui téléphone et il appelle le président du Brésil pour dire bon, vous me le débloquez et il vient aux États-Unis, quoi. Bon, c'était pour le développement du foot aux États-Unis dans le but d'obtenir une Coupe du Monde que finalement les Américains avaient obtenu pour 86, je crois, mais ils n'étaient pas prêts et ça avait été refilé au Mexique avec rendez-vous pour quelques années plus tard et ils y sont allés en 94, c'est ça. Donc oui, il y a souvent ce genre d'affaires-là derrière des gros transferts. Non, et puis
l'organisation même d'un grand nombre d'événements qu'a pu faire le Qatar, même avant d'avoir l'obtention de la Coupe du Monde. Là, on voit bien cette volonté d'exister sur le terrain international. Donc je veux dire, aujourd'hui, ceux qui se sont réveillés sur le foot après avoir organisé les JO, c'est les Chinois. Ils se sont rendu compte, le soft power, je veux dire, moi je vais beaucoup en Afrique, je vois la présence qu'ils ont en Afrique dans tous les domaines de l'économie. Et donc,
Chinois, bien sûr, ça c'est donc, quelque chose qu'on ignore.
Le football a une force en termes de soft power qui est inégalable.
Si je peux me permettre, j'avais interrogé Patrick Ossems, qui est un entraîneur belge qui a été sélectionneur du Népal, et à l'époque il était adjoint de Philippe Troussier en Chine, et il me disait que Xi Jinping, le président chinois, donc avant d'être élu, avait fait un rendez-vous avec Troussier et lui dans une chambre d'hôtel, et lui avait expliqué la politique sportive que lui mettait en place sur la dimension internationale du foot, et l'aspect mondialisation. Donc en effet, et même tu prends des pays comme la Mongolie qui sont, on va dire... qui ont des particularités, le football fait partie entre guillemets de la politique d'État pour dans un processus de mondialisation. Ça existe.
Mais je veux dire, nous le savons. Premier joueur à partir en Mongolie bientôt.
Il y a eu un Français qui a été champion de Mongolie il y a pas longtemps, qui joue en Thaïlande. Et il y a des Serbes aussi, mais les Serbes ils sont de partout.
Partout. Mais bon, nous on a lancé le championnat en Inde, donc l'Inde était pas sur la carte du foot. Bon bah, mais la Chine, on peut penser qu'ils vont véritablement tenter d'organiser la Coupe du Monde en 2030.
Ouais, mais les capitaux étrangers qui sortent de Chine, maintenant attention. Maintenant, c'est plus bien vu. Donc, les investissements dans le foot des Chinois ont vraiment baissé, par contre.
Non, mais ils vont se concentrer sur en interne.
Exactement.
Et donc, le développement du football en interne, la qualité de l'équipe nationale. Quelle meilleure pub que l'équipe nationale.
Exactement.
Aurélien, merci beaucoup.
Merci à vous, les gars.
Et
merci
à très bientôt. Reviens quand tu veux.
Je peux poser ma question de tout à l'heure, là?
Vas-y, c'est le moment.
Je disais, la préface, c'est Denis Robert. Donc, Denis Robert, on sait pourquoi il a été rendu célèbre pour ses enquêtes, journaliste d'investigation.
Clearstream.
Voilà. Quand toi tu fais ce livre, ce regard que t'as sur les agents, et évidemment tu dénonces tout, je sais même pas comment appeler ça, on va dire magouille pour faire simple, hein.
Donc c'est moderne.
Ouais, c'est tellement, je sais même pas quel terme employer.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que moi, pratiquement, je me marre. Je trouve que c'est un roman quand je lis.
Mais c'est un thriller. Hein.
Voilà, c'est un thriller, effectivement. Si demain t'as des agents qui tombent et tout, toi, c'est ça que t'attends? Tu le fais pour présenter, pour nous offrir un panorama du football international avec tout ce qu'il y a dans les coulisses, ou pour dénoncer ce milieu-là?
Bon, déjà, moi, je ne suis pas le justicier masqué. Je vais faire tomber personne et je reste à ma place. Moi, j'essaye. Alors, la vérité, pour moi, c'est comme l'utopie, comme disait Galeano. Je fais 10 pas en avant, elle fait 10 pas en arrière, et j'arriverai jamais à la
c'est
voir.
C'est bien, tu cites beaucoup Galeano, l'auteur.
Grand écrivain
du football. Donc, enfin, pas que du foot, mais.
Pourquoi Galeano.
Eduardo Galeano.
Oui, là, parce que j'avais compris que c'était le bel.
Galiego, l'ancien joueur.
Curieux.
Galeano.
Galeano. Galeano.
Non, c'est pas lui. Et donc, pourquoi justement essayer de trouver cette vérité que j'arriverai jamais à voir? Mais justement, elle me sert à ça, elle me sert à cheminer, à marcher. Moi, en fait, j'ai fait ce livre parce qu'on souvent réduit les dessous du foot, et Mediapart en est l'exemple parfait, sur juste des questions d'argent. Ce qui, pour moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on voit l'industrie générée par le foot, et s'expliquer dans un livre de Lucas Rondel et Richard du Haut-de-Bois, l'argent dans le football, c'est vraiment peanuts.
Ah oui, j'ai fait une conférence avec Lucas Rondel.
Ce livre explique tout. Et donc, pour moi, il y a d'autres histoires. En fait, j'ai parlé des gens dont on parle jamais. Figuier, on n'en parle jamais. Même Zahavi, son rôle dans la guerre froide, etc. Et en fait, c'est une histoire qui se continue, c'est comme un thriller avec ce Brazilian Football Project où ils meurent quasiment tous. C'est quand même terrible. En fait, j'ai fait ça avec toujours un souci de pédagogie, de vulgarisation, parce que le football, c'est une excellente porte d'entrée à tous les niveaux. Pour moi, on devrait avoir une approche pluridisciplinaire, ça peut être du social, la culture, de l'histoire, et aussi de l'humain.
Mais quand on lit, je suis pas là pour... Si à l'arrivée, on se dit, tu termines le livre, t'es obligé de te dire, putain, tout est pourri dans le foot, en fait.
Non, je pense pas.
C'est un peu, c'est l'impression qui ressort. T'as, forcément, tu as une vision.
Non, mais qu'est-ce qui pourrit sur ce, sur là les enquêtes qu'il a menées avec ces gens-là.
Non, mais Jérôme,
tout n'est pas pourri. On a toujours tendance à parler de ce qui marche pas.
Les agents, on peut pas dire.
Non, c'est ça.
Exactement. On parle de quelques cas.
Moi, c'est ce que j'avais.
Des fois, les joueurs, c'est pareil. Des fois, les frères des joueurs, les présidents.
Attends. Juste que Jérôme puisse également.
Non, mais moi, je rejoins ce que dit Bruno. Ça, c'est pas des agents.
Les agents,
c'est des super agents.
Pour moi, les agents.
C'est une minorité. Ne pas vous brusquer, mais on, si tout ça, on va dire ça, c'est la Ligue des Champions, les agents. Mais au niveau de la Ligue 1.
La Ligue des Champions des agents.
C'est même pas la Ligue des Champions
de la moralité. Donc, si tu veux.
Mais qu'est-ce qui se passe dans les clubs même de Ligue 1 quand, à partir du moment où l'entraîneur est pote avec l'agent qui lui dit qu'est-ce que t'as à me refiler et tout, c'est ça en miniature, quoi.
Tu peux pas empêcher que aussi, par exemple, quand il y a deux gars qui ont joué ensemble pendant 5 ans ou 10 ans sous le même maillot, qu'ils aient des affinités. Quand il y en a un qui est d'un côté, éventuellement le bon joueur qu'il peut avoir.
C'est comme dans le monde de l'entreprise, quand tu veux recruter quelqu'un parce que tu le connais ou parce que tu sais qu'il a des compétences, parce qu'un autre gars de l'entreprise t'a dit, lui, c'est le meilleur dans le domaine.
C'est comme quand toi, tu veux prendre, si t'as un service public et que tu veux prendre deux entreprises pour faire les travaux, si tu prends machin parce que t'as bouffé avec lui et tout, devant la justice, c'est conflit d'intérêts. Donc c'est ça, je prends pas le même exemple.
Tout peut être
un petit peu plus libéral.
Tout pour être finalement dénoncé à des degrés infimes et au degré
faut pas voir le mal partout.
C'est super discret un club de foot dans des en France, t'as des clubs, tout le monde s'en fout. Sochaux, tout le monde s'en fout. Même ce qui se passe avant.
Sochaux, tout le monde s'en fout avec ce qui se passe avec les Chinois en ce moment-là.
Avant le rachat.
Attention.
Il y a eu des fossoyeurs.
Sochaux, on s'en fout pas du tout de Sochaux.
Non, mais c'est surtout en ce moment avec ce qui s'est passé là. Il y a plein de gens qui se sont rassés.
Mais en fait, Jérôme, il y a un décalage entre ce que, par exemple, un gars de Ligue 1 ou de Ligue 2 va vivre avec son agent qui va l'arranger pour louer une baraque, pour gérer du quotidien.
C'est du bricolage.
Et ce qu'on voit dans le bouquin, en fait, c'est ça qui a l'air d'être interpellé.
Ouais, mais je vais te dire, même là on parle de. Je vais te parler des grands joueurs, donc qui peuvent rentrer dans cette filiale. Les grands joueurs, ils sont à mille lieues de penser ce que je veux dire, c'est que Neymar, il a son entourage, il a son agent. Tu parlais de Tevez. Tevez, son homme de confiance, il est pas là-dedans.
C'est un cas unique un peu. Voilà, justement, deux joueurs où il y a une relation de confiance avec un bandit avéré, alors que la majorité des autres joueurs, enfin il y a Cristiano qui a cette relation avec Mendes, ou Mino a pu avoir avec peut-être Ibra. Donc
Là, Bruno, là, tu me parles de deux agents. C'est des agents. Moi, je m'y retrouve. Ce que je veux dire, c'est la relation entre joueurs et agents, pas avec ces gens-là.
Parce que aussi, à la base, que ça soit Mino ou Georges, ils ont eu la faculté à négocier des super contrats pour leurs joueurs. Ils sont pas devenus grands d'un seul coup. Ça fait 20 ans ou 25
Bien
ans,
sûr.
Et que petit à petit, ils ont franchi.
Ils ont un savoir-faire.
Non, mais en termes de négociation, en termes de discussion, de contrat, d'obtenir Cristiano, il serait pas resté accroché à Georges s'il lui avait pas fait des super deals à chaque fois.
Sûr,
Et s'il avait pas eu la faculté. Oui, bien sûr.
Allez, 23h43, dans quelques instants, on revient. Antoine au 32-16 pour conclure, et puis encore deux, trois petites infos. Tiens, je vais vous raconter comment un chirurgien célèbre va arbitrer le Real dans quelques jours, notamment. Et puis la fameuse soirée des Pogba, celle-là, faut qu'on l'analyse aussi. Tu vas voir, Jérôme, c'est énorme. À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Ils sont là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Bruno Satin, agent sportif, donc artisan du monde du football, comme il se définit lui-même. Ça me plaît beaucoup, ça va te rester, je crois.
Non, mais bon, avant j'ai bossé pour une grosse structure avec IFG, donc.
Ouais, c'est vrai.
On est passé de l'hypermarché à la supérette.
mais avec efficacité quand même.
Oui, mais la passion surtout.
La passion.
Le moteur, c'est la passion.
Ah, la preuve, c'est que tu es allé voir la finale aller de la Coupe, la Copa Libertadores. Voilà. Pour le plaisir.
Exactement. Pour le foot, pour l'ambiance.
Alors que Pinizavi, il était où, lui? Il était au stade,
avec des, enfin, comme normalement, il a une connaissance du foot qui impressionnerait beaucoup.
Et Romain Molina qui est là. Donc,
mais Romain,
bouquin,
sentir, c'est
non, je veux qu'on accueille Antoine. Tout.
Ah, Antoine, vas-y.
Salut Antoine.
Bonjour à tous.
Salut Antoine, on t'écoute.
Alors en fait oui, alors c'est bon, vos débats sont très intéressants et en fait ça m'a rappelé en fait un livre que j'avais lu il y a quelques années en fait qui traitait de l'influence de Cosa Nostra aux États-Unis sur principalement en fait justement le monde des agents mais plus dans le football américain et le basket. Alors c'était un bouquin qui avait été écrit par un gars qui était dans le programme de production des témoins qui s'appelait Michael Franzese qui était super intéressant le bouquin et en fait il expliquait comment Cosa Nostra aux États-Unis donc il contrôlait le bookmaking et au niveau des agents ce qu'il faisait en fait c'est qu'il prenait en fait des jeunes joueurs en fait dès le lycée et en fait il y avait tout un noyautage qui était mis en place également avec des arbitres et donc j'avais trouvé ça super mais c'était tout un gros système alors vraiment il contrôlait vraiment beaucoup de choses principalement dans le basket et le football américain. Donc bah après c'est une grosse structure criminelle aussi. Et je voulais savoir justement si Romain Molina avait pu faire une comparaison justement avec ce qu'il pouvait faire dans d'autres sports et dans d'autres pays. Comme ce cas, bah je vous dis c'est un cas qui est tellement j'avais trouvé ça assez choquant entre guillemets. Et il y avait tout un gros noyautage qui a été expliqué. Et je voulais savoir donc si dans le foot, bah il y avait la même chose plus ou moins. Et si c'était comparable comme situation finalement. Ou s'il avait pu faire un comparatif avec d'autres sports et ce qui serait dans d'autres pays.
Bon, réponse de Romain.
C'est vrai que dans les pays de l'Est, la mafia est fortement liée au sport. Bon, moi, mon amour éternel, ce sera le basket. Et c'est vrai que quand on part en Grèce, en Serbie et dans d'autres pays, il y a des liens très nets pour connaître des joueurs là-bas. Après, j'ai pas le degré d'analyse pour y arriver parce que c'est beaucoup de travail tout ça. Et j'aime parler quand je suis sûr de moi. Maintenant, dans le football aussi, on peut voir ces mêmes organisations énormément dans les pays de l'Est. Ça, c'est et même dans les pays baltes. En Lettonie, en Lituanie et en Estonie, où personne ne regarde, et c'est le Far West. Là, par exemple, le champion de Lettonie, c'est détenu par un Russe, mais il a aucun joueur qui appartient au club. Il passe par des clubs à Chypre, les mecs, on leur confisque le passeport, et tout le monde s'en fout. Alors qu'au final, quand on réfléchit, c'est à proprement scandaleux, mais c'est tellement discret.
Ta question, Daniel, pour conclure.
Non, sans dire que tout est pourri dans le foot, même si à la lecture du livre, tu prends quand même des claques un peu partout. Tiens. La morale, elle est où? Elle est quasiment nulle part, quoi.
Ah, je pense que la morale dans le livre, elle est pas en effet. Bah, c'est qu'on a beaucoup qui sont morts quand même dans des circonstances assez tragiques. Quand on se retrouve pendu dans sa baignoire et qu'on dit ah c'est un suicide. Écoute, la morale, je sais pas où elle est, mais la morale, moi, des fois, je la vois sur des terrains.
Je sais pas, en Angleterre, tous les clubs où Willy Mackay a bossé, Chelsea, en Italie, la Juve.
Tu peux donner une morale.
Où est-ce que tu peux trouver des choses un peu nettes, quoi, nulle part, quoi. Le foot est comme ça, donc c'est.
Bruno, confirme-moi, mais t'as encore des hommes d'honneur dans ce milieu. T'as des mecs comme Bielsa. Et t'as un mec aussi qui est pas très connu, qui s'appelle Julio Ribas, qui est un entraîneur uruguayen qui est à Gibraltar. Moi, j'habite pas très loin et tout, qui fait du bon boulot. Mais t'as des mecs encore comme ça. T'as des mecs vrais. Même, tu vois, on se fout de la gueule de Genesio. Mais Genesio, il va pas toucher des billets. Il va pas se mettre à jouer à l'agent. Alors que t'as des entraîneurs.
Oui, ça, bien sûr.
Ou t'as
bien
des
sûr.
Mecs qui veulent paraître plus propre que Monsieur Propre.
Mais dès que tu montes dans des sphères de gros clubs où il y a beaucoup d'argent, en fait, tu peux pas échapper au système.
Mais la politique,
c'est impossible.
Trop proche de là.
Voilà.
La politique,
après,
elle est trop proche.
C'est quand même à partir du moment où il y a le deal Qatar Bein crée une chaîne et distribue de l'argent à tous les clubs, donc tous les clubs français sont dedans alors. Puisque le Qatar arrose tout le monde indirectement.
Bah, faudrait plutôt s'intéresser sur les transferts de joueurs Ligue 1 un peu bidon au Qatar. Ça ferait plus s'intéresser. Il y avait notamment un joueur de Toulouse qui est passé là-bas. Écoute, moi je sais pas s'il y a de la morale dans le foot. La seule que je vois, c'est que il faut être conscient quand même de ce qui se passe et qu'on peut pas analyser le foot seulement en étant dédaigneux de ce sport. Donc la morale, ce serait peut-être pas une morale sportive, mais ce serait une morale pour comprendre que le foot, c'est aussi quelque chose d'intellectuel, une discipline intéressante, et qu'il faut pas la snober, la dédaigner, et comprenne qui pourra pour ce message.
Messieurs, on va s'arrêter là-dessus sur ce dossier. J'ai plein d'infos encore à vous donner. Et tiens, je voulais vous signaler aussi la sortie d'un autre bouquin de notre pote Jean-François Pérez. Je le montre
oui,
aussi quand même.
Bien sûr, je le dis, bien sûr.
L'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille.
Ah oui.
Magnifique. Donc Jean-François Pérez.
Très beau livre.
Très très bon.
Figure historique de l'after.
Logiquement, il devrait revenir à Jérôme spontanément.
toi, tu veux me mettre en guerre avec les.
Une table à la maison.
Non, ouais. Mais bon.
Tu sais que je commente le PSG Liverpool la semaine prochaine, donc bon.
Non, mais
on va attendre.
Tu connais mieux l'histoire du PSG, sûrement.
Ah bah non, mais c'est même sûr.
Deux trois infos pour conclure. Oui, je voulais vous raconter d'abord l'offensive de Platini et de Blatter. Alors, ils sont pas offensifs, c'est qu'il n'y a pas de concert. Hein. Mais ce qui se passe autour de Gianni Infantino, vous avez suivi que Gianni Infantino est dans la tourmente de la justice.
Merde, on va finir par se rendre compte, c'était un coup fou. fourré, un coup monté. Bah, c'est bizarre. Ça, quand même.
Et donc, Blatter et Platini, par l'intermédiaire de leurs avocats.
Platini serait fait niquer, comme dit Bruno. Comment voilà. C'est possible, oh,
bah, peut-être que Blatter aussi, au fond. C'est, en tout cas, c'est ce qu'il, ouais. C'est ce qu'il dit, pas, Blatter.
Tardivement. Il va falloir prévenir tous ceux qui ont écrit Platini.
En tout cas, ils veulent contre-attaquer. Ils saisissent la justice suisse pour dire, mais regardez ce qui se passe avec Infantino. Toutes nos emmerdes à nous, elles sont parties de là, de cette affaire. Et apparemment, il y a eu collusion entre Infantino et le procureur. Donc, on veut enquêter, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc, voilà l'offensive enclenchée aujourd'hui par Blatter et Platini.
Tous ceux qui ont pensé un seul instant que Platini était un sale type dans toutes ces affaires-là sont pour moi de purs ignorants.
Des cons.
Des purs ignorants. Mais vraiment. Il faut être, mais franchement, je pèse mes mots, il faut être débile profond pour aller envisager ça. Vraiment.
Bon, par ailleurs, je voulais vous signaler.
Ne rien connaître et de pas s'intéresser à la moindre des affaires.
Je voulais vous signaler qu'il y a une soirée à Tours absolument somptueuse vendredi soir. Oui, alors en fait, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Ça se passe au PIMS, boîte bien connue de Tours.
C'est là où a fait ses premières armes Florent Gautreau.
Exactement.
Au PIMS.
Alors on a appelé. On a appelé le patron du PIMS, puisque le PIMS nous annonce
auditeur
pour vendredi soir.
Ouais, patron du PIMS.
Patron du PIMS, il dit, ah, c'est l'after, mais j'écoute l'after. Donc,
on est invité, Jérôme Mitrin, ouais, tu vas quand même au PIMS.
Il a dit, venez quand vous voulez, je vais vous mettre bien à Tours. Il nous a dit ça.
Ah, très bah, sympa. Nous attendre.
Au PIMS, et donc, soirée annoncée vendredi, la Pogbance, show dance des frères Pogba, dans la des boîte le PIMS Pogba. Des frères Pogba.
Mais les trois ou deux seulement?
Alors, c'est un peu le mystère, il y a,
il y en aura un.
On sait pas de mon avis.
Fait sa réduc.
Je pense qu'il y en aura un. Avec deux minimum.
Il y en a un qui vient, qui est sûr d'être là, c'est Mathias Pogba. Il joue à Tours et il est blessé. Donc il ne pourra pas jouer avec son
donc
club.
Il peut aller danser.
Il peut aller y aller. Exactement. Son autre frère, Florentin, qui était à Saint-Étienne, Florentin, n'a pas de club. Donc
il
potentiellement.
Turquie, il n'était pas en Turquie.
Il s'est fait virer, non?
Potentiellement, là, il peut venir.
Il sera là, ouais, il y en aura deux.
Et Paul, a priori, il joue le lendemain avec Manchester. Donc a priori, si Paul est là, c'est qu'il y a un gros souci avec Mourinho.
Paul est blessé.
Ou il sera peut-être en hologramme comme Mélenchon.
Ah, si Paul est blessé. Et, ouais.
Et voilà, alors c'est 15 euros d'entrée sans triplette. Conso, c'est sur l'affiche.
Sans la conso.
Et je précise, c'est important, qu'il touche 0 centime. Tout ça va pour une assoce, l'association caritative.
Ah bah c'est donc, très bien, tant mieux.
Donc PIMS de Tours vendredi soir. Enfin, voilà, les Pogba qui font un show dance dans une boîte, ouais. C'est quand même fantastique.
Ouais. C'est con, je voulais y aller avec Daniel, mais Daniel Pogba, c'est pas trop ton ami, donc il va pas te laisser rentrer.
Dis pas ça.
Et puis j'ai une autre histoire extraordinaire.
Mais je sais pas si tout seul.
J'ai une autre histoire extraordinaire à vous raconter, si vous la retrouvez sur rmcsport.fr. Ce week-end, il y a le match Eibar-Real, samedi. L'arbitre de touche de ce match, enfin un des deux arbitres de touche de ce match, c'est un chirurgien, qui est un chirurgien très célèbre en Espagne, et il a réalisé il y a quelques jours une opération qui est inédite à Valence, il a fait les gros titres de la presse et tout, puisqu'en une même opération fleuve, il a de chirurgie plastique, il a complètement transformé une personne, je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre, en 17 heures au bloc, opération du visage, de la poitrine, plus une phalloplastie, c'est-à-dire la création d'un pénis fonctionnel, donc sur une personne transsexuelle. Voilà ce qu'a fait cet arbitre de touche, une première
oui,
en
c'est
Espagne.
Quoi, c'était quoi que tu voulais nous dire en fait avec ça?
Bah le mec il est arbitre de touche et il fait de la phalloplastie.
D'accord. Voilà. Ok.
Si jamais on a la photo de la
signale à Orge bidon, on dira quoi qui
j'attendais de voir
enfilés.
Comment Jérôme Thomas allait illustrer cette information sur RMC Sport News, mais vraisemblablement il n'a rien fait. Donc ouais. Il est resté très soft. Donc voilà.
Est-ce qu'il connaît Valdemar Quita?
J'allais y venir.
Il peut les mettre en relation pour le business.
Non, c'est important.
Combien ça coûte? Toi, t'étais allé chez Kita pour
pour les lentilles. Tu parles à Bruno ou tu parles à Bruno là ou tu parles à qui?
C'est n'importe quoi.
En attendant, ça
pas que tu disais que t'avais besoin de gagner en
mais à qui tu parles? À Bruno.
Mais Valdemar Kita, t'en parles très librement en te disant, mais les mecs dans les vestiaires, qu'est-ce qu'ils regardent chez le voisin sous la douche?
Bah non, ils sont tous en slip maintenant. Alors
ça c'est vrai.
Ah oui, argument de vente qui est plus bon. Les grands chirurgiens espagnols qui seront
c'est vous qui avez dit ça parce que c'est moi qui dis ça, je te dis pas.
Ah, bah non, bah c'est une réalité hein.
Ah oui, mais bon,
je vais pas le dire.
Ah mais je sais pas, moi j'ai pas le droit,
c'est pas grave de dire ça,
c'est fini. Demain soir, on sera à la 22h donc événement demain, Antoine Mordac, le patron de la division nationale anti-hooligan sera avec nous pour dialoguer directement avec les supporters, ce sera demain. Bruno, merci d'être venu.
C'est un plaisir.
On te souhaite bon courage dans ta mission d'artisanat donc que tu développes depuis maintenant des années.
Écoute, puis on embrasse Koulibaly. Hein.
Ouais, bon, écoute.
Mais je plaisante.
C'est un mec exceptionnel.
Romain, merci d'être venu. À très bientôt dans l'after.
Manon Negra.
Et nous demain, on est là à 22h, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC Football Show, l'after foot.